Chapitre 4. Musée de la locomotion, Amsterdam.
Waouh!
Le cri des enfants fut unanime quand tous apparurent dans le musée de la locomotion. Depuis 3 ans, Cléo organisait la même sortie scolaire, et le musée produisait à chaque fois le même effet de fascination. Les 26 élèves se dispersèrent dans les différentes salles. Les filles étaient émerveillées par les diligences. Les garçons restaient bouche bée devant les locomotives à vapeur ou les voitures, des Cadillacs couleur pastel aux Ferrari rutilantes. Un groupe de 5 élèves s'agglutinait devant une reproduction grandeur nature d'un avion à hélice. Bien entendu, la plupart d'entre eux avaient déjà vu, dans des films ou dans des livres, des images de ces moyens de transport anciens, mais aucun n'en avait jamais approché.
« Ce sont des vraies maîtresses? Ils peuvent fonctionner ?»«
Je pense, oui. »
En fait, Cléo n'en avait aucune idée.
« Approchez-vous, les enfants !»
Sa tabletta vibra à nouveau dans sa poche. « Maman, forcément. Qu'est-ce qu'elle voulait? Ça pourrait bien attendre 1 heure, la fin de la classe. » Les élèves se regroupèrent autour de leur institutrice en traînant des pieds. Outre les vieux moyens de locomotion, Yuki, la souris, était l'autre incontournable centre d'intérêt du musée. On la croisait partout, en figurines, dessinées sur les murs, collées sur les vitrines. C'est elle, bien entendu, qui livrait les explications sur les panneaux d'information que les enfants tentaient de déchiffrer.
« Parfait !» fit Cléo en frappant dans ses mains pour réclamer l'attention. « Nous en étions à Yuki la souris, le premier être vivant de l'histoire de l'humanité à avoir été téléporté. Qui peut m'expliquer le principe de la téléportation humaine ?»
Kenny parla en premier sans même lever la main.
« Je sais. On est détruit, et puis après on est reconstruit. Mais ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps de s'en rendre compte. »
Il y eut quelques rires, quelques frissons aussi, que Cléo calma rapidement.
« C'est un peu ça, Kenny. Bravo !»
Certains élèves parurent plus effrayés encore. Cléo se hâta d'enchaîner.
« Rassurez-vous, les enfants, se téléporter est beaucoup moins dangereux que tous les anciens moyens de déplacement. »
Elle hésita à commenter le graphique sur le panneau d'information derrière eux. Yuki avait mesuré l'évolution annuelle du nombre mondial de morts dans les transports. 1,3 million en 2020. 1,8 million en 2040. Et seulement 118 en 2060. Spectaculaire, mais trop difficile à comprendre pour ses élèves.
« Je vais vous expliquer. Vous voyez cette voiture ?»
Tous les yeux se braquèrent sur la coccinelle orange.
« Eh bien, la téléportation quantique, c'est comme si on s'amusait à démonter toutes les pièces de cette voiture, chaque morceau, même le plus petit, et que très vite, on allait la reconstruire ailleurs. » La téléportation des êtres vivants est à peu près identique à celle des objets, mais longtemps, les gens ont eu du mal à en accepter le principe, parce qu'ils pensaient qu'il fallait d'abord mourir pour ensuite revivre juste après, autre part.
« Mon papa dit que c'est vrai, » affirma Sarah, « qu'on meurt quand on se téléporte, et qu'après on ressuscite. »
Plusieurs élèves, guère rassurés par les explications de leur maîtresse, observaient avec angoisse le TPC accroché à leur poignet. On mourait quand on se téléportait. Visiblement, leurs parents ne leur avaient jamais parlé des bases de la physique quantique.
« Ce n'est pas si simple que ça, » rectifia vite Cléo. « On ne meurt pas vraiment. Au contraire, on se dédouble en quelque sorte. Selon la physique quantique, on peut être à la fois ici et partout ailleurs. »«
Non, pas partout ailleurs, »
répliqua Samuel, un des gros malins de la classe.
« On peut pas si c'est un espace privé. »
« On peut pas non plus s'il y a déjà trop de monde à l'endroit où on veut aller !»
ajouta Jason, une autre forte tête.
« Bah, c'est sûr !» précisa Ben, le comique de la classe.
« Je vais pas me téléporter dans les toilettes de l'école si t'es déjà assis dessus en train de faire caca !»
Toute la classe éclata de rire, chassant leurs dernières angoisses. Ben avait parfaitement compris le principe de densité contrôlée.
« Exact, Ben !» reformula Cléo. Il y a toujours plusieurs mètres de sécurité entre les personnes quand elles se téléportent. Et on attribue à chaque espace public un taux de densité qu'on appelle taux d'occupation, à ne pas dépasser, et qui peut changer selon les moments du jour, les saisons ou même les années.
« Il ne change pas tant que ça, madame !» pleurnicha Dylan. « Moi, depuis que je suis né, je veux aller voir les éléphants en liberté dans le parc d'ado. Mais il y a toujours trop de monde dans la savane. « Papa, il s'y prend toujours trop tard pour réserver. Je suis sûr que j'irai jamais. »«
Eh bien moi, » répliqua Dorothée,
J'y suis allé au moins 3 fois voir les éléphants. C'est pas dur. Il suffit de... Moi, coupa Kirsty, mes parents ont affiché dans ma chambre la liste des 1001 plus beaux monuments à voir dans le monde. J'en ai déjà fait 612. Un dimanche, j'en ai fait 17 d'un coup. La cité interdite de Pékin, l'opéra de Sydney, la Sagrada Familia à Barcelone, la pyramide de Khéops en Égypte.
Tu parles ? Se moqua Aurélia.
C'est nul ! Tu les vois, mais t'entres pas. Moi, l'été dernier, je suis allé à Disneyland Shanghai et...
D'accord, coupa Cléo. Vous avez tous raison.
Ce qu'il faut retenir, c'est que grâce à la téléportation, chacun fait comme il veut. Rester toute la journée dans son espace privé ou changer de lieu toutes les 10 secondes. Ce qui est important, ce n'est pas où l'on va ni où l'on a été. C'est la liberté de se déplacer. C'est une liberté aussi vieille que le monde. Regardez.
Les élèves se retournèrent et admirèrent à nouveau les diligences, puis les pirogues de bois, les traîneaux sur patins, les montgolfières dont la toile de soie touchait le plafond. Cléo avait récupéré leur attention.
Les enfants, en plus du taux d'occupation et du respect des espaces privés, à quoi doit-on faire attention quand on se téléporte?
Une nouvelle fois, une forêt de bras se dressa et les réponses fusèrent avant même que l'institutrice ne les interroge.
On n'a pas le droit de se téléporter sans ses parents si on a moins de 6 ans. On n'a pas le droit de se téléporter avec des objets trop gros. 500 kilos, je crois. On doit prêter son TPC à personne. On doit regarder la météo qu'il fait avant de se téléporter pour savoir comment s'habiller. On doit se téléporter chez nous directement si un inconnu veut nous embêter.
Cléo sourit. Les enfants avaient grandi avec la téléportation en maîtrisant presque intégralement ses règles. Tous portaient, depuis leur 6e année, un telepuerto cuerpo au poignet, ce fameux TPC. L'appareil miniaturisé de la taille d'une montre permettant à chacun de se déplacer où il le voulait en enregistrant les bonnes coordonnées. Elle souffla. Il lui fallait maintenant aborder la partie la plus compliquée de son exposé. Elle invita ses élèves à s'asseoir devant un grand écran pédagogique qui diffusait en boucle des images des moyens de transport anciens. Les bouchons interminables dans les villes, les métros bondés, le va-et-vient incessant des avions dans un aéroport. Des files de camions patientant devant une frontière, des pelotons de cyclistes à Amsterdam, des skieurs de fond à Stockholm, des pousse-pousse à Pékin. Sur le mur opposé, sous le portrait du président Nemrod, était gravé l'article 1 de la Constitution mondiale de 2058. Une seule terre, un seul peuple, une seule langue. Un peu partout dans le musée, des kakémonos colorés, des guirlandes et des fanions avaient été accrochés. Une décoration qu'on devinait éphémère, sans doute installée en l'honneur du centenaire.
« Et maintenant, » se reconcentra Cléo, « je vais vous poser une question plus difficile. Qui peut me dire quelle a été la plus grande conséquence de la téléportation humaine après le temps des hubs où l'on ne savait téléporter que les objets ?»
Tous les élèves observaient avec étonnement sur l'écran la course désordonnée des habitants dans les rues des vieilles villes. Et devait comparer cette agitation à celle de fourmis affolées. Sur un autre écran, à leur gauche, des extraits de vieux films de science-fiction étaient diffusés. Métropolis, Blade Runner, Le Cinquième Élément. Cléo tenta de développer son explication d'une autre façon.
« Avant que vous ne soyez nés, » commença l'institutrice, « tous ceux qui ont imaginé le futur croyaient qu'on vivrait dans de très grandes villes, avec des voitures volantes pour se déplacer, des immeubles de 100 étages et des robots pour tout faire à notre place. Aucun écrivain, aucun cinéaste n'a réussi à imaginer le monde d'aujourd'hui.
Le regard des enfants oscillait entre les écrans et leur maîtresse.
L'un d'entre vous sait-il à quoi servent les villes ?
Cléo poursuivit sa démonstration, sans laisser ses élèves se perdre dans des réponses erronées.
À réduire les distances. Le principe d'une ville, il est tout simple, c'est d'essayer de mettre le maximum de choses au même endroit. Des gens, des usines, des bureaux, des logements, des magasins, des jeux, des cinémas, des salles de concert, des églises, pour que les gens puissent faire le plus de choses possible en se déplaçant le moins possible. La ville, on peut la résumer comme ça, c'est la recherche de la distance zéro. Mais, à partir de la téléportation humaine, que s'est-il passé ?
Pour ne pas que les élèves se lassent de ces questions, Cléo ne laissa passer qu'une microseconde avant de continuer.
Plus besoin de ville, les enfants. Plus besoin de distance zéro, puisque la distance n'existe plus. On peut se téléporter où l'on veut. Même si aujourd'hui un peu plus de 10 milliards d'êtres humains vivent sur Terre, il y a encore beaucoup de place. En moyenne, plus de 10 000 mètres carrés par habitant, c'est-à-dire presque la surface de 2 terrains de foot. Avec la téléportation humaine, les gens se sont posé une question toute bête. Pourquoi s'entasser dans les villes alors qu'il y a de la place pour tout le monde ailleurs? Pourquoi ne pas habiter au milieu d'un joli décor, dans les montagnes, près de la mer, en pleine forêt, et se téléporter en moins d'une seconde pour aller voir ses amis ou pour travailler? En quelques années, les villes n'ont plus servi à rien. Bien sûr, on a conservé les monuments, les tours, les stades, on n'allait pas tout reconstruire. Mais les gens, eux, sont partis s'installer un peu partout sur la planète, selon leur goût. On a utilisé un mot savant pour appeler cette période, la désurbanisation. Elle a été très rapide, c'était il y a moins de 40 ans. Selon les études de l'Organisation mondiale du logement, presque tout le monde est satisfait de l'endroit où il habite. Vous aussi, les enfants, je suis certaine que vous ne voudriez pas changer de maison. Cette fois, les élèves, frustrés par la difficulté des questions précédentes, se précipitèrent pour répondre.
« Moi, » dit Sarah, « la plage est à 200 mètres de chez moi, j'y vais à pied. »
« C'est nul !» répliqua Ben.
« Moi, je préfère me téléporter la tête la première dans la mer et habiter dans la montagne pour mieux voir les oiseaux. »«
Moi, » fit Dylan, « j'habite au milieu d'un grand champ. On voit que de l'herbe. C'est parce que mes parents ont pas assez d'argent. »«
Moi, j'ai plusieurs maisons, » expliqua Dorothée. « Une à Montréal sur le Mont-Royal, une au soleil et... »«
Moi, j'ai... »
Cléo frappa dans ses mains.
« Justement, les enfants, en parlant de maisons, il est l'heure d'y retourner. La classe est terminée pour aujourd'hui. » Réglez tous vos TPC sur votre domicile, n'oubliez pas vos devoirs, et à demain matin.
La seconde suivante, le musée de la locomotion était vide. Cléo resta seule. Sa tabletta vibrait dans sa poche. Maman.